Bon dimanche, tout le monde va bien ?
Oui.
Bien, merci Seigneur. Eh bien, Michou et moi, nous revenons d'un grand périple. Déjà, avec toute la communauté, on a passé combien ? 4-5 jours à déménager, avec deux camions, une voiture avec une remorque, dans une chaleur épouvantable. Bon, on était un peu fatigués, puis ensuite on est monté jusque dans l'ancienne... de notre ancienne propriété pour aller voir toutes les autorités afin d'en terminer avec la SCI que nous avions créée il y a plus de 30 ans maintenant et qui donc n'existe plus. Nous n'avons plus aucun lien avec les personnes qui nous ont fait des histoires, aucun lien du moins légal. Maintenant, spirituellement, c'est une autre chose. Et puis ensuite, nous sommes descendus sur la Suisse où nous étions invités par notre ami Marc Croza pour une fête extraordinaire qui a lieu tous les 20 ans. C'est la fête des vignerons. Et alors Marc avait invité une trentaine de ses amis, très généreusement, et c'était vraiment extraordinaire. Et il y avait parmi eux des vignerons. Ils ont dit, bah dis donc, les vignerons en Suisse, qu'est-ce qu'ils sont honorés. C'était... extraordinaire. J'avais les larmes aux yeux presque tout le long. C'est un immense stade qui est construit. Ils ont commencé à construire ça en fin janvier, je crois. 900 tonnes de métal pour construire ce stade. En pleine ville, sur une grande place, une immense place, la place de Vevey. Allez sur Google, vous allez regarder, vous allez voir. Et là, il y a eu un spectacle qui a été monté par des bénévoles, dirigés évidemment par des professionnels. Et il y avait 5400 participants, figurants, tous costumés d'une façon magnifique. Il y avait aussi les gardes suisses du Vatican qui étaient là et ont été honorés, surtout particulièrement les vignerons. Alors il y a eu beaucoup de chants traditionnels, moi je les connais tous puisque je suis suisse, alors ça me touchait beaucoup. Beaucoup de chants aussi qu'on apprenait à l'école quand on était gamin. Et qui ont été arrangés de façon vraiment magnifique avec l'orchestre extraordinaire. Non, mais il faut. J'en ai eu des frissons rien d'en parler, c'était extraordinaire. On a eu aussi, puisque c'était le 1er août, un discours de l'équivalent de M. Macron, si vous voulez, c'est le président de la Confédération Suisse. Et il était là avec sa femme, il y avait tous les notables. Et puis comme c'était la fête nationale, le 1er août c'est la fête nationale, il faut savoir que la Suisse est née le 1er août 1291 et qu'ils ont écrit une constitution qui commence au nom du Dieu Tout-Puissant. Et il y a toute la constitution. Alors il a dit c'est un grand jour aujourd'hui puisque nous fêtons l'anniversaire de la Suisse, mais nous fêtons aussi l'anniversaire... la fête des vignes, nous faisons aussi la fête pour les vignerons et puis nous fêtons aussi notre succès. Tout le monde s'est levé et a applaudi. Et je pensais, oui, aïe, il y a du succès, il y a un succès dans ce pays, une douceur de vivre, quelque chose de tout à fait, c'est palpable. Et il a dit, si nous n'entrons pas dans l'Europe, c'est parce que nous voulons garder notre liberté. Bien sûr, il y a des partages qui se font avec l'Europe, c'est certain, mais on ne profite pas de l'Europe, on participe avec l'Europe, mais on veut garder notre liberté. Ça, c'est... et notre neutralité, surtout. Ne pas se mêler de vos guerres mondiales et de toutes vos histoires. Et le président a continué. C'était un discours où il n'y avait rien qui fâchait. C'était un discours intime entre 20 000 personnes. Et il a dit... quand on me demande à l'ONU, quand des présidents me demandent, mais comment se fait-il qu'il y ait tant de prospérité, une si bonne qualité de vie en Suisse, le président a dit, ben j'ai juste un exemple à vous donner. Il y a quelque temps, on a proposé au peuple suisse d'avoir 6 semaines de vacances. Alors on a passé ça aux votations, parce que chez nous on appelle ça les votations, c'est-à-dire pour un oui ou pour un non, le peuple vote. C'est toujours le peuple qui vote, c'est une démocratie. Et le peuple a voté non, on ne veut pas 6 semaines, 4 semaines, ça suffit. Nous, on veut travailler parce qu'on veut vivre bien. Et tout le monde a rigolé et applaudi et tout. C'est vrai, c'est très étonnant. C'est une autre mentalité, c'est quelque chose. Je pense que alors que la France passe par des tourments et des moments très difficiles, je pense que ça serait bien que quelques hommes, quelques femmes de bonne volonté se mettent à étudier un petit peu comment les Suisses s'en sortent et comment ils font pour avoir une vie comme... Je ne dis pas ça parce que je suis aussi un peu, je dis ça parce que je suis suisse, mais parce que je suis chauve. Hein. Mais j'aime beaucoup la France et ça me fait de la peine de voir toute cette misère, toute cette révolte, tout justifié. Ça me fait de la peine. Et voilà. Par exemple, nous étions dans un restaurant juste avant, à la terrasse d'un bistrot plus exactement, et puis en attendant l'ouverture des portes de ce fameux stade. Et on a vu un couple arriver, ils ont posé leur sac, leur téléphone, tout sur la table et sur l'échelle, puis ils sont rentrés dans le bistrot pour passer leur commande, ils sont restés à peu près un quart d'heure, il y a plein de gens qui ont passé. Mais on n'imagine pas ça à Paris, laisser traîner son téléphone, son sac sur la table, alors qu'il y a des centaines de personnes qui passent. Et puis voilà, c'est une autre façon de vivre. On a demandé aussi, mais... Comment ça va se passer, on va demander ça à la gare, comment ça va se passer, parce qu'il y a il y aura des milliers de personnes. Alors la dame a dit, oh mais vous savez, c'est très bien organisé, alors il y a une arche, vous verrez, sur la place de la gare à Vevey, et puis il y a tout un service d'ordre, on fait des paquets de 1000, et puis on les met dans le train, parce qu'on ne peut pas mettre 12 000 personnes. Demain, il y aura 12 000 personnes qui vont prendre le train pour aller à la fête. Alors on les prend par paquet de 1000. Je vous assure, on n'a jamais vu un paquet de 1000. Tout glisse, tout. On est arrivé devant la gare, on est monté les escaliers, il y a un train qui arrivait, on est rentré dedans, on s'est assis, c'était parfait. Ben, tout est comme ça. On dit en France, bête et disciplinée. En Suisse, on ne dit jamais ça. Parce que la discipline, ce n'est pas de la bêtise. C'est bien. Et ça conduit à une certaine qualité de vie. Et voilà, je ne pouvais pas me retenir de vous dire ça parce que c'était... Vraiment, à un moment, j'en ai vu des spectacles en France, un peu partout, à Las Vegas, j'ai vu des choses extraordinaires. Mais là, j'étais soufflé, j'ai dit vraiment, les Ricains, ils peuvent s'aligner, que t'en penses que c'est des bénévoles, mais c'était magnifique. Et je voulais rendre cet hommage aussi pour cette journée à notre ami Marc, qui nous a offert, à mon épouse et moi, les meilleures places. Et en fait, il avait invité 30 amis, mais il a choisi 4 couples qu'il aime particulièrement. Et on était avec ces 4 couples. C'était vraiment, waouh, très touchant, très touchant. Et si tu m'écoutes, Marc, ben, merci beaucoup. Dieu te bénisse pour ça. Voilà, ce matin, on va commencer par lire le psaume 112, verset 1. Le psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ténèbres qui passent, mais quand les ténèbres passent dans la vie d'un homme droit, la lumière se lève dans les ténèbres pour l'homme droit, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancellera jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire, le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Jésus, je te prie de bénir ces... quelques paroles que je vais dire ce matin, qu'il soit une aide pour ceux qui sont dans des fausses craintes et qu'ils puissent comprendre les choses que tu as à dire au travers de ma bouche, au nom de Jésus. Amen. La question c'est, qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? Alors, pour bien comprendre une chose, des fois il faut dire le contraire. C'est pas la peur de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de l'Éternel. le mot crainte dans la Bible, il faut le prendre comme le synonyme de piété, de piété. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur que Adam et Ève ont eue au jardin après avoir transgressé la loi de Dieu qui avait dit « tu ne mangeras pas ». Et ils ont désobéi et ils ont eu la trouille quand ils ont entendu Dieu venir dans le jardin vers le soir. La Bible nous dit « ils ont fui, ils ont voulu se cacher ». Un disciple de Jésus ne craint pas Dieu de cette manière-là. Il ne fuit pas le Seigneur. Et s'il lui arrive, s'il m'arrive de commettre une faute, un péché, au lieu de fuir, eh bien, le disciple de Jésus va tout droit vers Dieu pour lui en parler. Vous voyez, c'est très différent. Il va raconter son péché à Dieu, il va le confesser à Dieu. On va lire dans 1 Jean 1,9. Je donne toujours les versets parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'invente ça et que je suis en train de créer une religion à partir de mes idées personnelles. 1 Jean 1,9, où il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confesser nos péchés, ça ne veut pas dire aller demander pardon. Confesser, c'est dire nos péchés. C'est raconter nos péchés, avec évidemment un sentiment de gêne et de regret. Mais on ne demande pas pardon. Un chrétien ne demande pas pardon. Il se sait déjà pardonné à l'avance. Mais il en parle à son Père, honnêtement. Et s'il le fait, alors il est fidèle. Dieu est fidèle et juste pour pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Alors, c'est quoi avoir la crainte de l'Éternel? Eh bien, c'est avoir le cœur éveillé. C'est avoir le cœur éveillé par la juste sévérité de Dieu. Je dis bien la juste sévérité de Dieu. C'est donc une crainte sacrée. Une crainte sacrée qui est la racine de la vie morale des disciples de Jésus. Voilà ce que c'est la crainte de l'Éternel. Un disciple de Jésus accepte l'autorité souveraine de Dieu et il désire faire la volonté écrite de Dieu. Pas la volonté d'un prophète qui vient lui dire « Le Seigneur m'a dit que tu dois te marier avec un tel, le Seigneur m'a dit que tu dois faire ceci. » Non, 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 non. Je vous parle de faire la volonté écrite de Dieu. C'est clair, équilibré. En vérité, un disciple, il craint de déplaire à Dieu parce qu'il aime Dieu. Comme un bon fils craint de déplaire à son papa qu'il admire, il aime son papa. Si son papa est normal, maintenant il y a tellement de dégénérés, mais quand un papa est bien et normal, alors le fils, il aime son père et il ne veut pas lui déplaire. Alors bon, dans l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle, Dieu ne cesse pas d'être redoutable. Il n'a pas changé, il est toujours redoutable. Pour ceux qui rejettent son salut, pour ceux qui rejettent son amour, pour ceux qui ne se soumettent pas à l'autorité établie par Dieu, il est un Dieu redoutable, toujours. Il n'a pas changé. Pour ceux qui s'obstinent dans la désobéissance, pour ceux qui s'obstinent dans la révolte contre l'ordre établi dans l'Église de Jésus-Christ, je parle de la vraie Église de Jésus-Christ, je ne parle pas des clubs chrétiens où on fait de l'idolâtrie, par exemple. Pour un disciple de Jésus, il y a toujours cet élément de crainte tel que je viens de vous le décrire, il existe toujours. On va lire Philippiens 2,12, où il est dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » C'est Paul qui parle aux Philippiens, il leur dit « Bon, quand j'étais là, vous avez toujours été obéissants, mais maintenant que je ne suis plus là, n'en profitez pas, hein, comme on dit, quand les chats sont pas là, les souris dansent, n'en profitez pas pour faire n'importe quoi, continuez toujours à être obéissants et à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. » Ce texte de Paul s'adresse à des disciples, il ne s'adresse pas à tout le monde. Si un gueulu trouve une Bible dans une brocante et puis qu'il lit ça, ça ne lui est pas forcément adressé. Ça s'adresse à des disciples, à des gens qui se disciplinent à faire la volonté de Dieu. Ce texte s'adresse à des gens qui ont toujours obéi. Comme Paul le dit, comme vous avez toujours obéi, bah continuez. Comme vous avez toujours obéi. Et à qui Paul dit de travailler à son salut avec crainte et tremblement? Ben, à des gens qui savent qu'ils sont sauvés. Et Paul leur explique que leur salut ne se gagne pas par les œuvres, mais qu'il se travaille par les œuvres. Il se travaille par les œuvres. Le salut, si vous voulez, c'est un petit peu comme un diamant brut que Dieu vous donne, et avec vos œuvres, vous le ciselez pour lui donner une apparence merveilleuse. C'est dans le sens que si tu es sauvé, tu peux avoir accès à des niveaux de gloire plus ou moins élevés dans le monde futur, selon le comportement que tu vas manifester durant le reste de ta vie sur cette terre. On va dire 1 Corinthiens 15, 41, pour montrer que c'est bien vrai ce que je vous raconte. 1 Corinthiens, je ne l'ai pas noté. 1 Corinthiens 15, 41, je vous ai dit, hein. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Hein, mon corps terrestre n'est pas comme le corps des anges, par exemple. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat d'étoile, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont ressusciter avec une gloire plus importante que d'autres, mais ce n'est pas injuste, c'est justement parce qu'ils auront travaillé leur salut avec crainte et tremblement, ils auront désiré de tout leur cœur faire la volonté de Dieu, ils y seront appliqués d'une façon régulière, ce qui fait qu'ils vont hériter d'une gloire supérieure. Et déjà ici-bas, il y a des promesses qui sont attachées à ceux qui obéissent. Vous avez entendu tout à l'heure quand j'ai lu dans le psaume 112. Donc, il faut se souvenir, il faut travailler à cela, non pas en dilettante, mais avec sérieux. Avec sérieux, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rigoler, hein, mais avec sérieux, il faut se souvenir que Dieu est juste et que tu n'auras pas de récompense si tu fais absolument rien. Si tu dis, bon, je suis sauvé, alléluia, puis tu vis comme un païen. Non, ça n'existe pas, ça. Tu seras sauvé, oui, mais comme au travers du feu. Ouais, c'est ce que la Bible dit, c'est-à-dire que tu arriveras au paradis, mais tu sentiras un peu le cramer, quoi. Tu sentiras un peu l'enfer. Mais c'est en tant que sauvé que nous travaillons à notre salut, c'est pas pour être sauvé que nous travaillons à notre salut. Travaille avec sérieux, sculpte ton salut en te souvenant que Dieu te récompensera ou pas, selon ce que tu auras fait, ou pas. Quand quelqu'un a de la crainte dans ce monde, il n'est pas heureux. Quelqu'un qui a la trouille, il n'est pas heureux. Le psalmiste nous dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». On vient de le lire dans le psaume 112. « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Pourquoi l'homme qui craint l'Éternel est-il heureux? Parce qu'il y a des promesses qui sont faites à ceux qui se comportent comme des bons fils envers leur bon Père céleste. Voilà pourquoi il est heureux. Je vous rappelle que le mot heureux dans la Bible, c'est un mot qui signifie en marche, en progression. Tu es heureux, tu es en marche, en progression, parce que tu crains l'Éternel, tu crains de lui déplaire, alors il te favorise. Quoi de plus normal? C'est normal. Même les gens du monde ont le sens de ce qui est juste, et personne n'aime voir les méchants, malhonnêtes, qui prospèrent. On dit, ouais, tous des pourris, hein, voilà. Eh bien, si vous avez un sens de ce qui est juste, vous allez comprendre aisément que Dieu favorise ceux qui prennent plaisir à sa loi, à ses lois, et il les favorise. C'est normal. Les lois de Dieu ne sont pas mauvaises, pas du tout. Elles ne nous incitent pas à faire le mal, jamais. Elle ne nous incite pas à faire du mal aux autres, elle nous incite à aimer, pardonner, bénir, aider, secourir, enfin faire du bien, quoi. Donc une personne qui aime ce qui est bien et fait de tout son cœur le mieux qu'il peut, eh bien, il va être favorisé par Dieu. C'est clair. Et c'est normal. Je trouve que si Dieu favorise une vieille charogne, excusez-moi l'expression, eh bien, je dirais, ben, Dieu n'est pas juste. Vous avez des gens qui semblent être favorisés par Dieu, mais ils sont trompés par l'ennemi. Ils disent, ils pensent qu'ils sont bénis de Dieu, malgré toutes les choses mauvaises qu'ils font. Ce n'est pas Dieu qui les bénit, c'est le diable qui les trompe. Et un jour ou l'autre, eh ben, ils se retrouvent le nez dans leur machin. Il faut faire attention. Avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas trouver Dieu effrayant. On va lire un texte qui va vous aider à comprendre. Ça se trouve dans Exode 20, chapitre 20, verset 20. Exode 20, 20, c'est facile à se rappeler. C'est comme deux chroniques 20, 20, c'est facile à se rappeler. C'est difficile à vivre. Exode 20, 20. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Parce qu'ils étaient autour de la montagne, là où Dieu donnait la loi, et Dieu s'est manifesté d'une façon terrifiante. Les feux, les éclairs, le tonnerre, un bruit terrible, et le peuple a eu peur, même à tel point qu'ils ont dit, on veut plus que tu nous parles, on veut plus que Dieu nous parle, qu'il te parle à toi, Moïse, et puis tu viendras nous raconter ce qu'il dit. Ils ont eu peur, et Moïse a dit, ne vous effrayez pas. S'il a fait ça, c'est pour que vous ayez la crainte de Dieu. Ça paraît contradictoire, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ne vous effrayez pas, c'est pour que vous ayez la crainte de Dieu, que Dieu s'est montré comme ça à vous. Pourquoi ? À quoi il joue Dieu ? Eh bien, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dieu veut juste montrer à son peuple qui sortait d'Égypte qu'il n'était pas un Dieu comme les dieux de pacotille de l'Égypte, qui avait une bouche qui ne parle pas, qui avait des yeux qui ne voient pas, qui avait des bras qui n'enlacent pas, qui avait des oreilles qui n'entendent rien. C'était des idoles, des machins devant lesquels les gens se prosternaient, priaient, voilà. Pacotille, quoi. Du bling-bling religieux. Eh bien, Dieu leur a dit, non, je ne suis pas comme ça. Et il a voulu les impressionner afin qu'ils le prennent au sérieux. Vous voyez ? Il veut que les Juifs aient une bonne idée de ce qu'il est, réellement. C'est-à-dire, il peut être redoutable. On ne se moque pas de Dieu. Il n'est pas le bon Dieu des religieux. Qu'est-ce que ça m'énerve quand j'entends les gens qui me disent « Oh, mais vous savez, j'aime beaucoup le bon Dieu !» Il n'est pas le bon Dieu. Il n'est pas non plus « Oh, vous savez, oh, moi, alors j'ai toujours beaucoup aimé le petit Jésus !» Mais il n'est pas resté couché dans une crèche, il faut se réveiller un petit peu. Hein? Il est le Tout-Puissant, et il nous aime, c'est vrai, mais on ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de lui, parce qu'il peut se montrer redoutable. Oui ou non? Oui, c'est comme ça. Et puis on est fait à son image. Hein? Cela, les Juifs, sortis d'Égypte, ne le savaient pas vraiment. Ils ne connaissaient pas Dieu. Bon, ils avaient lu les sept plaies d'Égypte, c'était terrifiant, c'était terrible. Mais ça aurait pu leur laisser l'idée que le Dieu de Moïse n'aimait pas les Égyptiens et qu'il les préférait, eux, les Juifs, et qu'il allait tout leur passer parce qu'il les aimait. Il a dit non, 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 non. Voilà comment je suis. Et il leur a fait un peu la troupe. C'est pour ça que Moïse dit, il vous a mis à l'époque, c'est pour vous montrer comment il peut être redoutable et que vous devez avoir la crainte de l'Éternel, mais pas cette crainte de peur. En fait, Dieu les éduquait là, à ce moment-là. En gros, il leur faisait la démonstration qu'on ne badine pas avec Dieu. On ne badine pas avec Dieu. Il est bon, il est gentil, mais la Bible nous dit aussi qu'il est jaloux et qu'il est parfois colérique. Bon, il est lent à la colère, je vous l'accorde. Par contre, quand il se met en rogne, ben, il est vraiment redoutable. On va lire Romains 8, 15. Romains 8, 15. Je le cherche, je le trouve. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. On n'a pas reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire un esprit qui nous tient en esclavage, dans la peur, dans la crainte, et qui nous fait marcher à la baguette. Non, 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 pas du tout. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, et le Saint-Esprit qui est en nous n'est pas un esprit de servitude. Il ne cherche pas à nous asservir. Pas du tout. Il ôte la crainte, il ôte la frayeur, il ôte la peur que Dieu avait suscité dans le cœur des Juifs, dans l'Ancienne Alliance, et en particulier là au mont du Mont Sinaï, puis plusieurs fois encore après, parce qu'ils ont la tête dure, on en connaît. Nous savons par l'Esprit de Dieu qui vit en nous que nous sommes fils de Dieu, notre Dieu est notre Père, et c'est une relation filiale que nous avons et qui s'est établie entre Dieu et nous. C'est terrible si on a peur de son papa. Et cet amour filial a banni la crainte-peur. On va lire dans 1 Jean 4, 18-19. Ben, c'est pas ça. Si, c'est ça. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour bannit, l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alors, c'est pas si simple, hein, il faut comprendre. La crainte suppose un châtiment. Ça veut dire que si tu crains Dieu, ça veut dire que tu penses que Dieu va te châtier. Mais si tu as l'amour parfait, ben tu n'as pas peur qu'il te châtie, puisque tu n'as rien fait de mal. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose que ce que cela veut dire. Celui qui craint, celui qui a la trouille de Dieu, c'est qu'il n'est pas parfait dans l'amour. Il a un problème lui-même. Voilà. Vous voyez la relation que Dieu a avec ses enfants. Et heureusement que c'est écrit, parce qu'il y a plein de gens tordus qui auraient raconter des histoires, et qui, moi je me rappelle, il y a 70 ans à peu près, 80 ans, mes grands-parents me racontaient que dans les églises, des fois le prêtre ou le pasteur secouait les chaînes comme ça, en criant « L'enfer vous attend, l'enfer vous attend, si vous péchez !» Puis il parlait d'un Dieu terrifiant. Je comprends qu'ils ont vidé leurs églises. Hein. Vivre avec Dieu, exclut la peur de vivre avec lui. Vivre avec Dieu exclut la peur de vivre avec lui. Notez ça en grand chez vous. Pourquoi ? Mais parce que le disciple de Jésus n'a pas peur d'être puni et d'être condamné par Dieu. Pas du tout. La certitude qu'il nous a choisis, que nous sommes choisis de lui, nous donne une ça nous remplit de paix, de tranquillité. Dieu nous a pardonné, il l'a fait déjà. C'est déjà fait. Il nous accepte à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, c'est-à-dire ce que Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans sur la croix, c'est fait une fois pour toutes. Si nous y croyons, nous n'avons pas peur du châtiment. Quel châtiment ? Le châtiment au sujet de quoi ? Par exemple, si vous péchez et que vous persistez et que vous ne demandez pas, si vous ne confessez pas à Dieu vos péchés, là oui, peut-être Dieu châtie ceux qu'il aime. Mais autrement, non. La mort et la résurrection de Jésus nous rend Dieu propice. On n'a plus rien à craindre. Plus rien à craindre. L'amour parfait bannit la crainte. Maintenant, si vous avez une autre interprétation, ben, vous me la faites connaître, je serais ravi de comprendre. Alors, de quelle crainte parle le Nouveau Testament ? Craindre Dieu, c'est juste reconnaître son autorité. C'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup en ce moment, l'autorité. Enfin, ça fait déjà longtemps. Hein. C'est respecter l'autorité. C'est révérer le Seigneur. Dans l'amour, il y a le respect, non? Quelqu'un qui dit à sa femme, je t'aime. Moi, je me rappelle, on devait partir en convention pastorale, on était plusieurs pasteurs dans le train, et il y en avait un qui était là avec sa femme, et il se lève pour aller voir un de ses copains, puis il fait comme ça. Il casse les doigts en lui faisant signe, reste assise, reste là. C'est pas du respect. Qu'est-ce que c'est amour? On respecte Dieu, on ne lui parle pas comme un copain d'école, quoi, je veux dire. Comme avec sa femme et son mari, quand on aime, on respecte. Et notre obéissance n'est pas déterminée par la peur, mais par l'amour que nous avons pour Dieu. Alors, pour terminer, je dirais que la crainte a deux sens opposés, la peur et l'amour. Un des sens, le premier sens, la peur, ça éloigne. L'autre sens, rapproche. On va lire Proverbe 22, 4. Je ne l'ai pas noté, il faut que je cherche. Proverbe 22, 4. Il est là. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, est la richesse, la gloire et la vie. Des épines et des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Vous voyez comment Salomon associe l'humilité et la crainte de Dieu. C'est tout à fait compréhensible. Crainte et soumission sont liées. Et c'est normal. C'est normal d'être soumis à Dieu. Parce que, faut pas oublier qu'il est notre créateur, qu'on est donc inférieur, donc soumis ou insoumis. Celui qui aime Dieu se soumet volontiers à Dieu, reconnaissant son autorité. C'est lui notre créateur, c'est pas le contraire. Il y en a qui disent, oui, l'homme a créé Dieu à son image. Ça, c'est de la poésie à quatre sous pour faire rigoler dans les bars. La crainte du Seigneur est donc le comportement normal de celui qui veut avoir une conduite conforme à la volonté écrite de Dieu, à cette volonté qu'il a jugé bon de nous transmettre par les Saintes Écritures. Alors là encore, il y a deux opposés. Il y a celui qui vit dans l'amour et la crainte respectueuse de Dieu, et il y a celui qui s'endurcit. Celui qui s'endurcit, ce dernier, il refuse de reconnaître, il refuse d'accepter, il refuse de vivre une autre volonté que la sienne. Ou il préfère l'autorité de sa religion que celle que l'autorité de Dieu. Il choisit le mauvais côté. Mes frères et sœurs, le royaume que nous avons reçu est inébranlable. Inébranlable. Soyons donc reconnaissants. Salut, c'est une assurance solide. C'est pas du blablabla. On va lire Hébreux 12, et je termine là, versets 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Qu'est-ce que c'est un culte qui lui soit agréable? Est-ce que c'est un moment, le dimanche, entre 10h et midi, où on va poser notre derrière dans une église, où on lève les bras en chantant, où on tape des mains, où on dit « Alléluia, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment ne pas t'adorer, notre Dieu Tout-Puissant, Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. » C'est pas ça un culte agréable. Un culte agréable, c'est un comportement, un vécu dans l'équilibre avec notre Dieu. C'est ça un culte agréable. Amen. C'est clair. Je répète, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et il continue en disant, persévérez dans l'amour fraternel. Alors nous vivons en communauté, et il y a le verset suivant qui pourrait paraître étonnant. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quand on vit en communauté, on exerce aussi l'hospitalité les uns envers les autres et aussi envers ceux qui viennent nous visiter. Parce que on peut recevoir des anges sans le savoir, des envoyés de Dieu. Prenez garde à tout ça. Tout ça, c'est des réalités. Dieu peut vous envoyer des anges, des bons ou des mauvais. Un envoyé, c'est un ange ou envoyé, c'est le même mot, ange ou envoyé. Dieu peut vous envoyer des gens magnifiques, merveilleux, qui vont vous aider, qui vont vous bénir, qui vont vous encourager. Il peut aussi vous envoyer des gens qui vous cassent les pieds pour vous éprouver. Faites attention, rappelez-vous toujours, si vous êtes des gens qui aimez Dieu, prenez tout du bon côté. Et bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Merci Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que cette prédication puisse aider beaucoup de monde. Je te remercie Jésus. Amen.
Amen.
Au revoir, à bientôt.